Espèce de bayard sans faste, Monsieur Pierre-Joseph Genestas n'offrait donc en lui rien de poétique ni rien de romanesque, tant il paraissait vulgaire. Sa tenue était celle d'un homme cossu. Quoiqu'il n'eût que sa solde pour fortune et que sa retraite fût tout son avenir, néanmoins, semblable au vieux loup du commerce auquel les malheurs ont fait une expérience qui avoisine l'entêtement, le chef d'escadron gardait toujours devant lui 2 années de solde et ne dépensait jamais ses appointements. Il était si peu joueur qu'il regardait sa botte quand en compagnie on demandait un rentrant ou quelques suppléments de pari pour l'écarter. Mais s'il ne se permettait rien d'extraordinaire, il ne manquait à aucune chose d'usage. Ses uniformes lui duraient plus longtemps qu'à tout autre officier du régiment, par suite des soins qu'inspire la médiocrité de fortune et dont l'habitude était devenue chez lui machinale. Peut-être l'eût-on soupçonné d'avarice sans l'admirable désintéressement, sans la facilité fraternelle avec lesquelles il ouvrait sa bourse à quelque jeune étourdi ruiné par un coup de carte ou par toute autre folie. Il semblait avoir perdu jadis de grosses sommes au jeu, tant il mettait de délicatesse à obliger. Il ne se croyait point le droit de contrôler les actions de son débiteur et ne lui parlait jamais de sa créance. Enfant de troupe, seul dans le monde, il s'était fait une patrie de l'armée et de son régiment, une famille. Aussi, rarement recherchait-on le motif de sa respectable économie. On se plaisait à l'attribuer au désir naturel d'augmenter la somme de son bien-être pendant ses vieux jours. À la veille de devenir lieutenant-colonel de cavalerie, il était présumable que son ambition consistait à se retirer dans quelques campagnes avec la retraite et les épaulettes de colonel. Après la manœuvre, si les jeunes officiers causait de Genestas, il le rangeait dans la classe des hommes qui ont obtenu au collège les prix d'excellence et qui, durant leur vie, restent exacts, probes, sans passion, utiles et fades comme le pain blanc. Mais les gens sérieux le jugeaient bien différemment. Souvent quelques regards, souvent une expression pleine de sens, comme l'est la parole du sauvage, échappait à cet homme et attestait en lui les orages de l'âme. Bien étudié, son front calme accusait le pouvoir d'imposer silence aux passions et de les refouler au fond de son cœur, pouvoir chèrement conquis par l'habitude des dangers et des malheurs imprévus de la guerre. Le fils d'un pair de France, nouveau venu au régiment, ayant dit un jour, en parlant de Genestas, qu'il eût été le plus consciencieux des prêtres ou le plus honnête des épiciers. Ajoutez le moins courtisan des marquis, répondit-il en toisant le jeune fat qui ne se croyait pas entendu par son commandant. Les auditeurs éclatèrent de rire. Le père du lieutenant était le flatteur de tous les pouvoirs, un homme élastique habitué à rebondir au-dessus des révolutions, et le fils tenait du père. Il s'est rencontré dans les armées françaises quelques-uns de ces caractères, tout bonnement grands dans l'occurrence, redevenant simples après l'action, insouciants de gloire, oublieux du danger. Il s'en est rencontré peut-être beaucoup plus que les défauts de notre nature ne permettraient de le supposer. Cependant, L'on se tromperait étrangement en croyant que Genestas fût parfait. Défiant, enclin à de violents accès de colère, taquin dans les discussions et voulant surtout avoir raison quand il avait tort, il était plein de préjugés nationaux. Il avait conservé de sa vie soldatesque un penchant pour le bon vin. S'il sortait d'un repas dans tout le décorum de son grade, il paraissait sérieux, méditatif, et il ne voulait alors mettre personne dans le secret de ses pensées. Enfin, s'il connaissait assez bien les mœurs du monde et les lois de la politesse, espèce de consigne qu'il observait avec la roideur militaire, s'il avait de l'esprit naturel et acquis, s'il possédait la tactique, la manœuvre, la théorie de l'escrime à cheval et les difficultés de l'art vétérinaire, ses études furent prodigieusement négligées. Il savait, mais vaguement, que César était un consul ou un empereur romain, Alexandre un grec ou un macédonien. Il vous eût accordé l'une ou l'autre origine ou qualité sans discussion. Aussi, dans les conversations scientifiques ou historiques, devenait-il grave, en se bornant à y participer par des petits coups de tête approbatifs, comme un homme profond arrivé au pyrrhonisme. Quand Napoléon écrivit à Schönbrunn le 13 mai 1809, dans le bulletin adressé à la Grande Armée, maîtresse de Vienne, que, comme Médée, les princes autrichiens avaient de leurs propres mains égorgé leurs enfants, Genestas, nouvellement nommé capitaine, ne voulut pas compromettre la dignité de son grade en demandant ce qu'était Médée. Il s'en reposa sur le génie de Napoléon, certain que l'empereur ne devait dire que des choses officielles à la Grande Armée et à la Maison d'Autriche. Il pensa que Médée était une archiduchesse de conduite équivoque. Néanmoins, comme la chose pouvait concerner l'art militaire, il fut inquiet de la Médée du bulletin, jusqu'au jour où Mademoiselle Raucourt fit reprendre Médée. Après avoir lu l'affiche, le capitaine ne manqua pas de se rendre le soir au Théâtre Français pour voir la célèbre actrice dans ce rôle mythologique dont il s'enquit à ses voisins. Cependant, un homme qui, simple soldat, avait eu assez d'énergie pour apprendre à lire, écrire et compter, devait comprendre que, capitaine, il fallait s'instruire. Aussi, depuis cette époque, lut-il avec ardeur les romans et les livres nouveaux qui lui donnèrent des demi-connaissances desquelles il tirait un assez bon parti. Dans sa gratitude envers ses professeurs, il allait jusqu'à prendre la défense de Pigault Lebrun, en disant qu'il le trouvait instructif et souvent profond. Cet officier, à qui sa prudence acquise ne laissait faire aucune démarche inutile, venait de quitter Grenoble et se dirigeait vers la Grande Chartreuse, après avoir obtenu la veille de son colonel un congé de 8 jours. Il ne comptait pas faire une longue traite, mais, trompé de lieu en lieu par les dires mensongers des paysans qui l'interrogeaient, il crut prudent de ne pas s'engager plus loin sans se réconforter l'estomac. Quoiqu'il eût peu de chance de rencontrer une ménagère en son logis, par un temps où chacun s'occupe aux champs, il s'arrêta devant quelques chaumières qui aboutissaient à un espace commun, en décrivant une place carrée assez informe, ouverte à tout venant. Le sol de ce territoire de famille était ferme et bien balayé, mais coupé par des fosses à fumier. Des rosiers, des lierres, de hautes herbes s'élevaient le long des murs lézardés. À l'entrée du carrefour se trouvait un méchant groseillier sur lequel séchaient des guenilles. Le premier habitant que rencontra Genestas fut un pourceau vautré dans un tas de paille, lequel, au bruit des pas du cheval, grogna, leva la tête et fit enfuir un gros chat noir. Une jeune paysanne, portant sur sa tête un gros paquet d'herbes, se montra tout à coup, suivie à distance par quatre marmots en haillons, mais hardis, tapageurs, aux yeux effrontés, jolis, bruns de teint, de vrais diables qui ressemblaient à des anges. Le soleil pétillait et donnait je ne sais quoi de pur à l'air, aux chaumières, au fumier, à la troupe ébouriffée. Le soldat demanda s'il était possible d'avoir une tasse de lait. Pour toute réponse, la fille jeta un cri rauque. Une vieille femme apparut soudain sur le seuil d'une cabane, et la jeune paysanne passa dans une étable, après avoir indiqué par un geste la vieille, vers laquelle Genesta se dirigea, non sans bien tenir son cheval, afin de ne pas blesser les enfants qui déjà lui trottaient dans les jambes. Il réitéra sa demande, que la bonne femme se refusa nettement à satisfaire. Elle ne voulait pas, disait-elle, enlever la crème des potées de lait destinée à faire le beurre. L'officier répondit à cette objection en promettant de bien payer le dégât. Il attacha son cheval au montant d'une porte et entra dans la chaumière. Les quatre enfants, qui appartenaient à cette femme, paraissaient avoir tous le même âge, circonstance bizarre qui frappa le commandant. La vieille en avait un cinquième presque pendu à son jupon et qui, faible, pâle, maladif, réclamait sans doute les plus grands soins. Partant, il était le bien-aimé, le Benjamin. Genestas s'assit au coin d'une haute cheminée sans feu, sur le manteau de laquelle se voyait une vierge en plâtre colorié, tenant dans ses bras l'enfant Jésus. Enseigne sublime. Le sol servait de plancher à la maison. À la longue, la terre primitivement battue était devenue raboteuse, et, quoique propre, elle offrait en grand les callosités d'une écorce d'orange. Dans la cheminée était accroché un sabot plein de sel, une poêle à frire, un chaudron. Le fond de la pièce se trouvait rempli par un lit à colonnes garni de sa pente découpée. Puis, çà et là, des escabelles à trois pieds, formées par des bâtons fichés dans une simple planche de faillard, une huche au pain, une grosse cuillère en bois pour puiser de l'eau, un seau et des poteries pour le lait, un rouet sur la huche, quelques clayons à fromage, des murs noirs, une porte vermoulue ayant une imposte à claire-voie, telles étaient la décoration et le mobilier de cette pauvre demeure. Maintenant, voici le drame auquel assista l'officier, qui s'amusait à fouetter le sol avec sa cravache sans se douter que là se déroulerait un drame. Quand la vieille femme, suivie de son Benjamin teigneux, eut disparu par une porte qui donnait dans sa laiterie, les quatre enfants, après avoir suffisamment examiné le militaire, commencèrent par se délivrer du pourceau. L'animal, avec lequel ils jouaient habituellement, était venu sur le seuil de la porte. Les marmots se ruèrent sur lui si vigoureusement et lui appliquèrent des gifles si caractéristiques qu'il fut forcé de faire prompte retraite. L'ennemi dehors, les enfants attaquèrent une porte dont le loquet, cédant à leurs efforts, s'échappa de la gâche usée qui le retenait. Puis ils se jetèrent dans une espèce de fruitier où le commandant, que cette scène amusait, les vit bientôt occupés à ronger des pruneaux secs. La vieille, au visage de parchemin et aux guenilles sales, rentra dans ce moment, en tenant à la main un pot de lait pour son hôte. Ah, les vauriens! Dit-elle. Elle alla vers les enfants, empoigna chacun d'eux par le bras, le jeta dans la chambre, mais sans lui ôter ses pruneaux, et ferma soigneusement la porte de son grenier d'abondance. Là, là, mes mignons! Soyez donc sages! Si l'on y prenait garde, ils mangeraient le tas de prunes, les enragés, dit-elle en regardant Genestas. Puis elle s'assit sur une escabelle, prit le teigneux entre ses jambes et se mit à le peigner en lui lavant la tête avec une dextérité féminine et des attentions maternelles. Les quatre petits voleurs restaient, les uns debout, les autres à côté contre le lit ou la huche, tous morveux et sales, bien portants d'ailleurs, grugeant leurs prunes sans rien dire, mais regardant l'étranger d'un air sournois et narquois. C'est vos enfants? Demanda le soldat à la vieille. Faites excuse, monsieur, c'est les enfants de l'hospice. On me donne 3 francs par mois et 1 livre de savon pour chacun d'eux. Mais, ma bonne femme, ils doivent vous coûter 2 fois plus. Monsieur, voilà bien ce que nous dit monsieur Benassis. Mais si d'autres prennent les enfants au même prix, faut bien en passer par là. N'en a pas qui veut des enfants. On a encore besoin de la croix et de la bannière pour en obtenir. Quand nous leur donnerions notre lait pour rien, ils ne nous coûtent guère. D'ailleurs, monsieur, 3 francs, c'est une somme. Voilà 15 francs de trouver sans les 5 livres de savon. Dans nos cantons, combien faut-il donc s'exterminer le tempérament avant d'avoir gagné 10 sous par jour? Vous avez donc des terres à vous? Demanda le commandant. Non, monsieur. J'en ai eu du temps de défunt mon homme, mais depuis sa mort, j'ai été si malheureuse que j'ai été forcée de les vendre. Eh bien, reprit Genestas, comment pouvez-vous arriver sans dette au bout de l'année en faisant le métier de nourrir, de blanchir et d'élever des enfants à 2 sous par jour? Mais, reprit-elle en peignant toujours son petit teigneux, nous n'arrivons point sans dettes à la Saint-Sylvestre, mon cher monsieur. Que voulez-vous? Le bon Dieu s'y prête? J'ai 2 vaches. Puis, ma fille et moi, nous glanons pendant la moisson. En hiver, nous allons au bois. Enfin, le soir, nous filons. Ah, par exemple, il ne faudrait pas toujours un hiver comme le dernier. Je dois 75 francs au meunier pour de la farine. Heureusement, c'est le meunier de monsieur Benassis. Monsieur Benassis, voilà un ami du pauvre. Il n'a jamais demandé son dû à qui que ce soit. Il ne commencera point par nous. D'ailleurs, notre vache a un veau, ça nous acquittera toujours un brin. Les 4 orphelins, pour qui toutes les protections humaines se résumaient dans l'affection de cette vieille paysanne, avaient fini leur prune. Ils profitèrent de l'attention avec laquelle leur mère regardait l'officier en causant, et se réunirent en colonne serrée pour faire encore une fois sauter le loquet de la porte qui les séparait du bon tas de prunes. Ils y allèrent, non comme des soldats français vont à l'assaut, mais silencieux comme des Allemands, poussés qu'ils étaient par une gourmandise naïve et brutale. Ah, les petits drôles! Voulez-vous bien finir? La vieille se leva, prit le plus fort des 4, lui appliqua légèrement une tape sur le derrière et le jeta dehors. Il ne pleura point. Les autres demeurèrent tout pantois. Il vous donne bien du mal. Oh non, monsieur, mais ils sentent mes prunes, les mignons. Si je les laissais seuls pendant un moment, ils se crèveraient. Vous les aimez? À cette demande, la vieille leva la tête, regarda le soldat d'un air doucement goguenard et répondit: Si je les aime, j'en ai déjà rendu trois, ajouta-t-elle en soupirant. Je ne les garde que jusqu'à 6 ans. Mais où est le vôtre? Je l'ai perdu. Quel âge avez-vous donc? Demanda Genestas, pour détruire l'effet de sa précédente question. 38 ans, monsieur. À la Saint-Jean prochaine, il y aura 2 ans que mon homme est mort. Elle achevait d'habiller le petit souffreteux, qui semblait la remercier par un regard pâle et tendre. Quelle vie d'abnégation et de travail, pensa le cavalier. Sous ce toit, digne de l'étable où Jésus-Christ prit naissance, s'accomplissaient gaiement et sans orgueil les devoirs les plus difficiles de la maternité. Quels cœurs ensevelis dans l'oubli le plus profond! Quelle richesse et quelle pauvreté! Les soldats, mieux que les autres hommes, savent apprécier ce qu'il y a de magnifique dans le sublime en sabots, dans l'évangile en haillons. Ailleurs se trouve le livre, le texte historié, brodé, découpé, couvert en moire, en tabis, en satin. Mais là, certes, était l'esprit du livre. Il eût été impossible de ne pas croire en quelque religieuse intention du ciel en voyant cette femme qui s'était faite mère comme Jésus-Christ s'est fait homme, qui glanait, souffrait, s'endettait pour des enfants abandonnés et se trompait dans ses calculs sans vouloir reconnaître qu'elle se ruinait à être mère. À l'aspect de cette femme, il fallait nécessairement admettre quelques sympathies entre les bons d'ici-bas et les intelligences d'en haut. Aussi, le commandant Genestas la regarda-t-il en hochant la tête. Monsieur Benassis, est-il un bon médecin? Demanda-t-il enfin. Je ne sais pas, mon cher monsieur, mais il guérit les pauvres pour rien. Il paraît, reprit-il en se parlant à lui-même, que cet homme est décidément un homme. Oh oui, monsieur, et un brave homme. Aussi n'est-il guère de gens ici qui ne le mettent dans leurs prières du soir et du matin. Voilà pour vous, la mère, dit le soldat en lui donnant quelques pièces de monnaie. Et voici pour les enfants, reprit-il en ajoutant un écu. Suis-je encore bien loin de chez monsieur Benassi? Demanda-t-il quand il fut à cheval. Oh non, mon cher monsieur, tout au plus une petite lieue. Le commandant partit, convaincu qu'il lui restait 2 lieues à faire. Néanmoins, il aperçut bientôt, à travers quelques arbres, un premier groupe de maisons, puis enfin les toits du bourg, ramassés autour d'un clocher qui s'élève en cône et dont les ardoises sont arrêtées sur les angles de la charpente par des lames de fer blanc étincelant au soleil. Cette toiture, d'un effet original, annonce les frontières de la Savoie, où elle est en usage. En cet endroit, la vallée est large. Plusieurs maisons, agréablement situées dans la petite plaine ou le long du torrent, animent ce pays bien cultivé, fortifié de tous côtés par les montagnes et sans issue apparente. À quelques pas de ce bourg, assis à mi-côte, au midi, Genestas arrêta son cheval sous une avenue d'ormes, devant une troupe d'enfants et leur demanda la maison de monsieur Benassis. Les enfants commencèrent par se regarder les uns les autres et par examiner l'étranger de l'air dont ils observent tout ce qui s'offre pour la première fois à leurs yeux. Autant de physionomies, autant de curiosités, autant de pensées différentes. Puis, le plus effronté, le plus rieur de la bande, un petit gars aux yeux vifs, aux pieds nus et crottés, lui répéta, selon la coutume des enfants: La maison de monsieur Benassi, monsieur? Et il ajouta: Je vais vous y mener. Il marcha devant le cheval, autant pour conquérir une sorte d'importance en accompagnant un étranger que par une enfantine obligeance, ou pour obéir à l'impérieux besoin de mouvement qui gouverne à cet âge l'esprit et le corps. L'officier suivit dans sa longueur la principale rue du bourg, rue caillouteuse, à sinuosité, bordée de maisons construites au gré des propriétaires. Là, un four s'avance au milieu de la voie publique. Ici, un pignon s'y présente de profil et la barre en partie. Puis un ruisseau venu de la montagne la traverse par ses rigoles. Genesta aperçut plusieurs couvertures en bardeaux noirs, plus encore en chaume, quelques-unes en tuiles, sept ou huit en ardoise, sans doute celles du curé, du juge de paix et des bourgeois du lieu. C'était toute la négligence d'un village au-delà duquel il n'y aurait plus eu de terre, qui semblait n'aboutir et ne tenir à rien. Ses habitants paraissaient former une même famille en dehors du mouvement social et ne s'y rattacher que par le collecteur d'impôts ou par d'imperceptibles ramifications. Quand Genestas eut fait quelques pas de plus, il vit en haut de la montagne une large rue qui domine ce village. Il existait sans doute un vieux et un nouveau bourg. En effet, par une échappée de vue, et dans un endroit où le commandant modéra le pas de son cheval, il put facilement examiner des maisons bien bâties dont les toits neufs égayaient l'ancien village. Dans ces habitations nouvelles que couronne une avenue de jeunes arbres, il entendit les chants particuliers aux ouvriers occupés, le murmure de quelques ateliers, un grognement de lime, le bruit des marteaux, les cris confus de plusieurs industries. Il remarqua la maigre fumée des cheminées ménagères et celle plus abondante des forges du charron, du serrurier, du maréchal. Enfin, à l'extrémité du village vers laquelle son guide le dirigeait, Genesta aperçut des fermes éparses, des champs bien cultivés, des plantations parfaitement entendues, et comme un petit coin de l'abri, perdu dans un vaste pli du terrain dont, à la première vue, il n'eût pas soupçonné l'existence entre le bourg et les montagnes qui terminent le pays. Bientôt l'enfant s'arrêta. Voilà la porte de sa maison, dit-il. L'officier descendit de cheval, en passa la bride dans son bras, puis, pensant que toute peine mérite salaire, il tira quelques sous de son gousset et les offrit à l'enfant, qui les prit d'un air étonné, ouvrit de grands yeux, ne remercia pas et resta là pour voir. En cet endroit, la civilisation est peu avancée. Les religions du travail y sont en pleine vigueur et la mendicité n'y a pas encore pénétré, pensa Genestas. Plus curieux qu'intéressé, Le guide du militaire s'accota sur un mur à hauteur d'appui qui sert à clore la cour de la maison et dans lequel est fixée une grille en bois noirci de chaque côté des pilastres de la porte. Cette porte, pleine dans sa partie inférieure et jadis peinte en gris, est terminée par des barreaux jaunes taillés en fer de lance. Ces ornements, dont la couleur a passé, décrivent un croissant dans le haut de chaque vantail et se réunissent en formant une grosse pomme de pin figurée par le haut des montants quand la porte est fermée. Ce portail, rongé par les vers, tacheté par le velours des mousses, est presque détruit par l'action alternative du soleil et de la pluie. Surmonté de quelques aloès et de pariétaires venus au hasard, les pilastres cachent les tiges de deux acacias inermis plantées dans la cour et dont les touffes vertes s'élèvent en forme de houppes à poudrer. L'état de ce portail trahissait chez le propriétaire une insouciance qui parut déplaire à l'officier. Il fronça les sourcils en homme contraint de renoncer à quelque illusion. Nous sommes habitués à juger les autres d'après nous, et si nous les absolvons complaisamment de nos défauts, nous les condamnons sévèrement de ne pas avoir nos qualités. Si le commandant voulait que M. Benassi fût un homme soigneux ou méthodique, certes, la porte de sa maison annonçait une complète indifférence en matière de propriété. Un soldat amoureux de l'économie domestique, autant que l'était Genesta, devait donc conclure promptement du portail à la vie et au caractère de l'inconnu. Ce à quoi, malgré sa circonspection, il ne manqua point. La porte était entrebâillée, autre insouciance. Sur la foi de cette confiance rustique, l'officier s'introduisit sans façon dans la cour, attacha son cheval au barreau de la grille, et pendant qu'il y nouait la bride, un hennissement partit d'une écurie vers laquelle le cheval et le cavalier tournèrent involontairement les yeux. Un vieux domestique en ouvrit la porte, montra sa tête coiffée du bonnet de laine rouge en usage dans le pays et qui ressemble parfaitement au bonnet phrygien dont on affuble la liberté. Comme il y avait place pour plusieurs chevaux, le bonhomme, après avoir demandé à Genesta s'il venait voir M. Benassi, lui offrit pour son cheval l'hospitalité de l'écurie, en regardant avec une expression de tendresse et d'admiration l'animal qui était fort beau. Le commandant suivit son cheval pour voir comment il allait se trouver. L'écurie était propre, la litière y abondait, et les deux chevaux de Benassi avaient cet air heureux qui fait reconnaître, entre tous les chevaux, un cheval de curé. Une servante, arrivée de l'intérieur de la maison sur le perron, semblait attendre officiellement les interrogations de l'étranger, à qui, déjà, le valet d'écurie avait appris que M. Benassi était sorti. Notre maître est allé au moulin à blé, dit-il. Si vous voulez l'y rejoindre, vous n'avez qu'à suivre le sentier qui mène à la prairie. Le moulin est au bout. Genesta aima mieux voir le pays que d'attendre indéfiniment le retour de Benassi, et s'engagea dans le chemin du moulin à blé. Quand il eut dépassé la ligne inégale que trace le bourg sur le flanc de la montagne, il aperçut la vallée, le moulin, et l'un des plus délicieux paysages qu'il eût encore vu. Arrêté par la base des montagnes, la rivière forme un petit lac, au-dessus duquel les pics s'élèvent d'étage en étage, en laissant deviner leurs nombreuses vallées par les différentes teintes de la lumière ou par la pureté plus ou moins vive de leurs arêtes chargées toutes de sapins noirs. Le moulin, construit récemment à la chute du torrent dans le petit lac, a le charme d'une maison isolée qui se cache au milieu des eaux, entre les têtes de plusieurs arbres aquatiques. De l'autre côté de la rivière, au bas d'une montagne alors faiblement éclairée à son sommet par les rayons rouges du soleil couchant, Genesta entrevit une douzaine de chaumières abandonnées, sans fenêtres ni portes. Leur toiture dégradée laissait voir d'assez fortes trouées. Les terres d'alentour formaient des champs parfaitement labourés et semés. Leurs anciens jardins, convertis en prairies, étaient arrosés par des irrigations disposées avec autant d'art que dans le Limousin. Le commandant s'arrêta machinalement pour contempler les débris de ce village. Pourquoi les hommes ne regardent-ils point sans une émotion profonde toutes les ruines, même les plus humbles? Sans doute, elles sont pour eux une image du malheur dont le poids est senti par eux si diversement. Les cimetières font penser à la mort. Un village abandonné fait songer aux peines de la vie. La mort est un malheur prévu. Les peines de la vie sont infinies. L'infini n'est-il pas le secret des grandes mélancolies? L'officier avait atteint la chaussée pierreuse du moulin sans avoir pu s'expliquer l'abandon de ce village. Il demanda Benassi à un garçon meunier assis sur des sacs de blé à la porte de la maison. Monsieur Benassi est allé là, dit le meunier en montrant une des chaumières ruinées. Ce village a donc été brûlé? Dit le commandant. Non, monsieur. Pourquoi donc alors est-il ainsi? Demanda Genesta. Ah, pourquoi? Répondit le meunier en levant les épaules et entrant chez lui. Monsieur Benassi vous le dira. L'officier passa sur une espèce de pont fait avec de grosses pierres entre lesquelles coule le torrent, et arriva bientôt à la maison désignée. Le chaume de cette habitation était encore entier, couvert de mousse, mais sans trous, et les fermetures semblaient être en bon état. En y entrant, Genesta vit du feu dans la cheminée, au coin de laquelle se tenait une vieille femme agenouillée devant un malade assis sur une chaise, et un homme debout, le visage tourné vers le foyer. L'intérieur de cette maison formait une seule chambre éclairée par un mauvais châssis garni de toile. Le sol était en terre battue. La chaise, une table et un grabat composaient tout le mobilier. Jamais le commandant n'avait rien vu de si simple ni de si nu, même en Russie, où les cabanes des moujiks ressemblent à des tanières. Là, rien n'attestait les choses de la vie. Il ne s'y trouvait même pas le moindre ustensile nécessaire à la préparation des aliments les plus grossiers. Vous eussiez dit la niche d'un chien sans son écuelle. N'était le grabat une souquenille pendue à un clou et des sabots garnis de paille, seul vêtement du malade, cette chaumière eût paru déserte comme les autres. La femme agenouillée, paysanne fort vieille, s'efforçait de maintenir les pieds du malade dans un baquet plein d'une eau brune. En distinguant un pas que le bruit des éperons rendait insolite pour des oreilles accoutumées au marché monotone des gens de la campagne, l'homme se tourna vers Genesta en manifestant une sorte de surprise partagée par la vieille. Je n'ai pas besoin, dit le militaire, de demander si vous êtes monsieur Benassi. Étranger, impatient de vous voir, vous m'excuserez, monsieur, d'être venu vous chercher sur votre champ de bataille au lieu de vous avoir attendu chez vous. Ne vous dérangez pas, faites vos affaires. Quand vous aurez fini, je vous dirai l'objet de ma visite. Genesta s'assit à demi sur le bord de la table et garda le silence. Le feu répandait dans la chaumière une clarté plus vive que celle du soleil, dont les rayons, brisés par le sommet des montagnes, ne peuvent jamais arriver dans cette partie de la vallée. À la lueur de ce feu, faite avec quelques branches de sapin résineux qui entretenaient une flamme brillante, le militaire aperçut la figure de l'homme qu'un secret intérêt le contraignait à chercher, à étudier, à parfaitement connaître. Monsieur Benassi, le médecin du canton, resta les bras croisés, écouta froidement Genesta, lui rendit son salut et se retourna vers le malade, sans se croire l'objet d'un examen aussi sérieux que le fut celui du militaire.